après les livres de l'Ecclésiaste, de Job et des Proverbes, nous continuons notre série sur les livres poétiques. Et je vais laisser à Luc le soin de nous dire lequel des deux derniers livres poétiques il a choisi. Soit c'est le livre des psaumes, soit c'est le Cantique des Cantiques. Alors je lui laisse toute la place. Seigneur Jésus, merci de bénir Luc. Vraiment, tu le renouvelles dans cet enthousiasme qu'il a reçu de toi. Et je te prie pour que tu puisses l'utiliser afin de nous ouvrir les yeux et le cœur pour nous permettre que la parole qu'il a reçue puisse non seulement nous faire du bien, mais impacter nos vies et nous permettre de pouvoir grandir avec toi. C'est une grande responsabilité que tu lui donnes et je te remercie parce que tu veux vraiment lui donner les paroles nécessaires et l'autorité nécessaire pour nous bénir chacun chacune. Amen.
Voilà. Alors avec ce titre-là, vous voyez toujours pas sur quoi je vais prêcher, c'est très bien. Mais je voulais déjà commencer par dire que je suis très content d'être avec vous. Ça, c'est hyper important parce que, comme je le dis souvent, si je n'étais pas content, ce serait embêtant. Donc je suis très content d'être avec vous. Et puis, j'avais toute cette semaine un verset du psaume 13 qui dit « Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien ». Et c'est pas beau ça. Je pense qu'on a chanté parce qu'il nous a fait du bien. Et j'espère ce matin qu'il vous a encore fait plus de bien. Et c'est tellement bon. La semaine passée, j'étais dans ce même moment là, dans ce week-end, on était avec quelques hommes. On était à peu près 80-80 hommes. Je dis toujours 80, je dis 80 aujourd'hui. C'est parce que j'allais faire un gag sur les Suisses allemands. Et puis je me suis dit, il faut que j'honore les Français. Donc on était 10 Suisses et puis le reste des Suisses allemands. Vous me suivez? Et puis on était juste avec des hommes et on a vécu un super moment dans les Alpes tessinoises, un super moment avec Dieu, un moment de rencontre vraiment fort avec Dieu. Et parmi nous, il y avait aussi Josué et Régis qui étaient avec moi. Et voilà, c'était le 4M pour ceux qui connaissent, Extreme Character Challenge. Alors, je vous lance le défi l'année prochaine. Je ne sais pas si je vais refaire avec vous, mais en tout cas, je veux bien prendre votre inscription. Mais voilà, je chante car l'Éternel m'a fait du bien. Alors effectivement, ce matin, on poursuit cette série « Sagesse pour ma vie sous le soleil ». Merci pour vos échos positifs. Je crois qu'il y a plusieurs qui ont été encouragés par ces derniers messages. Et puis, c'est vrai qu'il y a une partie exhortation, une partie qui nous interpelle. Il y a une partie un peu enseignement aussi, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est difficile de vous avoir le mardi soir. Hein. C'est peut-être pas nouveau, mais l'étude biblique, ça a plus de peine. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie un peu d'étude aussi dans ces messages. Et puis, un encouragement à lire ou à relire ces livres poétiques. Donc aujourd'hui, j'ai peut-être manqué d'audace, mais j'ai pas pris le livre le plus petit. J'ai pris celui qui est au cœur de la parole, le livre des psaumes. Et je l'ai vraiment au cœur. Hein. Ça, c'est le truc, quand on connaît pas trop la Bible, les psaumes, on trouve tout de suite parce que c'est au milieu de la Bible. C'est vrai? Et puis, il est vraiment au cœur. Et puis, il est aussi au cœur même de nos vies parce que souvent, les chrétiens, les gens qui ont l'habitude de lire la Bible, c'est vrai que souvent vous lisez des psaumes, parce qu'il y a peut-être une certaine facilité à les lire, on verra pourquoi. Mais le livre des psaumes, il est cité quand même 500 fois dans le Nouveau Testament. Hein, c'est pas mal. Donc je ne sais pas si vous vous en rendiez compte, mais il est très présent. D'ailleurs, si vous achetez ou recevez le petit Nouveau Testament des Gédéons, il y a les psaumes avec. Donc souvent, si vous achetez le Nouveau Testament, vous avez les psaumes avec, parce qu'ils font partie de notre méditation quotidienne. Alors c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus simple de parler des psaumes que de parler de l'Ecclésiaste, parce qu'on reconnaît chacun cette dimension poétique dans les psaumes, on se sent plus vite rejoint par le message, hein, parce que quand j'ai parlé de l'Ecclésiaste, c'est vrai que j'ai vu vos mines un petit peu dépitées au départ. Mais voilà. Alors spontanément, on va faire un petit questionnaire avec vous, non ? Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on parle des psaumes ? Comme ça, vous pouvez juste jeter une idée. On est en famille, allez-y, gênez-vous pas. Louange. David. J'ai pas entendu quoi ? Reconnaissance. Bonté. J'ai eu souffrance, Ruth. L'éternel au berger, psaume 23. Musique et instrument. Quand même, Maurizio. Joli, tu n'as pas mon truc. Voilà, petit arrêt technique et c'est reparti. Yes. Ok, bon, c'est toutes des bonnes choses. Hein. Je ne suis pas très surpris par vos réponses. Donc, effectivement, chant, David, louange, poésie peut-être. On a eu reconnaissance et souffrance. Hein, vous avez dit ça, bonté. Voilà, c'est intéressant. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, on va parler un petit peu. Ben, je vais juste retracer quelques ou donner quelques points d'enseignement au départ avant d'entrer vraiment dans un psaume plus spécifique. Voilà donc le livre des psaumes aujourd'hui. Donc le nom déjà, effectivement, le nom c'est louange. Hein, le nom psaume dans l'hébreu, Tehilim, ça veut dire louange. Puis dans le grec, c'est psalmos, c'est dérivé d'un ils ont traduit un verbe hébreu qui voudrait dire chanter en s'accompagnant d'un instrument à cordes. Puis en fait, tout mon message est là aujourd'hui. J'aimerais que vous repartiez de ce lieu en chantant des psaumes et puis en jouant d'un instrument à cordes. Amen, on peut prier ? Non, bon, je ne voulais pas quand même trop tirer sur la corde. Hein ? Bon. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça ? Est-ce qu'un jour, à l'escale, vous veniez et il y avait ça sur vos chaises ? Enfin, pas celui-là, il était noir avec des... Hein ? Peut-être ça vous arrivait sur vos chaises. Moi, j'ai grandi dans une église, on avait encore des bancs, donc vous êtes vraiment privilégiés à l'escale, hein. Même si le dossier est un peu inconfortable. Et puis, on avait toujours ça devant le, hein, le banc devant nous. Voilà. Et en fait, le livre des psaumes, c'est un petit peu ça. C'est le gem de l'Ancien Testament. On pourrait le dire comme ça. Hein. C'est le gem de l'époque. Parce que les psaumes étaient chantés à des occasions précises. On pouvait aussi les chanter, puis les approprier dans nos propres circonstances, comme Anne, par exemple. Vous connaissez le cantique de Anne lorsqu'elle a eu Samuel. Et bien, en fait, ses paroles sont tirées du psaume 113. Donc, elle se souvenait de ce psaume, elle connaissait ce psaume, et puis elle l'a traduit un peu en ses mots parce que c'était en lien avec sa circonstance, une circonstance joyeuse. J'ai prêché sur Jonas encore récemment. Et bien, dans les profondeurs de la mer, quand il s'adresse à Dieu, Jonas cite des psaumes. Et on peut retrouver quasiment mot pour mot plusieurs des psaumes. Donc il y avait une appropriation. En plus que ce soit des temps chantés, d'assemblée, lorsqu'on se retrouvait au temple. Alors, première question, est-ce que ça vous arrive ? Est-ce que ça vous arrive d'être à la maison, puis d'un coup d'avoir un chant ? Oui, c'est génial, non ? Moi, j'aime ça, parce que certains vont dire « Ah, mais c'est pas la parole de Dieu. » Mais la plupart des chants ont des paroles de la Bible qui sont à l'intérieur. Hein, mais c'est juste génial, d'un coup, d'avoir une mélodie, un chant, puis on commence à le chanter, puis « Ah, le qu'on chante à Christ seul me suffit. » Ah ben ouais, c'est vrai, c'est exactement ce que j'avais besoin là, en ce moment. Et pas plus tard que hier, j'ai beaucoup rigolé, ma fille de 3 ans, elle était dans l'escalier, là, et puis d'un coup, j'entends « Il y a de la puissance dans le nom Jésus. » Pour briser les chaînes. Je suis arrivé, j'ai pris mon attel, j'ai dit, faut que je filme, c'est trop chou. J'arrive, quand elle a vu la vidéo, elle a arrêté. Évidemment. Bon, c'était un moment intime, il ne fallait pas que ce soit filmé. Voilà, mais c'est trop chou, c'est trop beau, hein, quand on a ces paroles qui sont là. Alors, il faut imaginer ça, c'est que le livre des psaumes était lu, était récité, était chanté, mais les gens le vivaient. Il y avait quelque chose dans leur quotidien où les psaumes étaient présents. Avant même d'entrer donc, dans la parole, lorsqu'on parle de sagesse sous le soleil, hein, c'est le thème, les psaumes nous donnent une clé, évidemment, hein, pour une vie de sagesse sous le soleil, une des clés, c'est la louange. Une louange qui est authentique. C'est une conversation avec Dieu qui exprime nos émotions, nos ressentis à Dieu. Et je pense que si on aime le livre des psaumes, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a un côté très très vrai. Hein, c'est très vrai, vous lisez ça, waouh, c'est pourtant parole inspirée de Dieu. Mais quand on entend, on lit les détresses qu'il y a là, et les cris du cœur, il y a quelque chose de tellement authentique, ça nous parle. Et là, je crois qu'il y a vraiment une clé. On a la louange. La louange est parfois un sacrifice. La louange, des fois, est difficile à apporter. parce qu'elle ne devrait pas dépendre de nos circonstances. Donc il y a un choix à vivre cette louange, et on le voit très bien dans les psaumes. Et puis on relève dans les psaumes sept genres littéraires, là c'est des grands mots, mais qui démontrent aussi bien cette réalité, la louange là. Il y a des hymnes, donc des psaumes qui sont des hymnes, il y a des psaumes de lamentation, il y a des psaumes de reconnaissance, vous l'aviez dit, mais il y a aussi des psaumes royaux, c'est comme si c'est le roi qui adresse sa prière. Il y a des psaumes de sagesse, des psaumes de confiance, qui expriment vraiment la confiance à Dieu, puis il y a des psaumes de souvenir, où on se souvient de tout ce que Dieu a fait, et puis c'est un sujet de joie. Donc on peut passer de la lamentation à la reconnaissance, de la supplication à la confiance, de la prière à la louange et proclamation, enfin tout cela, et c'est ça qui nous parle encore vraiment aujourd'hui dans ce livre. Et puis à l'intérieur de chacun de ces genres littéraires, en fait, il y a généralement une structure type, mais je ne vais pas commencer à vous dire toute la structure, vous en auriez marre, mais je prends deux exemples rapides, par exemple pour les hymnes. Eh ben, si vous regardez, il y a toujours des paroles qui invitent à la, quoi, qui a des paroles de louange, louer l'Éternel, par exemple. Après, il y a une invitation, dire peuple, louer l'Éternel, Donc, une invitation à louer l'Éternel. Puis après, on le loue pourquoi? Puis il y a une raison, parce qu'il a fait de grandes choses. Voilà. Donc là, vous avez, par exemple, un hymne, avec toujours ces trois éléments, donc une structure. Et puis, dans les lamentations, par exemple, ce qui me parle beaucoup, c'est qu'on reste jamais dans la lamentation. Si vous prenez un psaume de lamentation, il y a une progression et on termine par un verset qui va exprimer la confiance en Dieu, ou la confiance en la réponse de Dieu. Et puis il y a toujours une louange finale, comme s'il y a une invitation. Puis ça, je vous encourage à ne pas rester dans la lamentation. Il y a une progression. On peut exprimer notre lamentation, mais toujours vous regarderez à la maison, vous essayerez de trouver des psaumes de lamentation, toujours à la fin. Il y a mettre notre confiance en Dieu. On proclame déjà, on met la confiance en Dieu, et puis on loue l'Éternel. Donc il y a vraiment un cheminement intéressant. Dieu est bon et il répond. Alors vous l'avez aussi remarqué, puis je dis, c'est peut-être pour ça que certains aiment bien lire les psaumes, c'est parce que c'est difficile, c'est pas suivi comme lecture. Donc si des fois vous arrivez au milieu d'un évangile ou d'une lettre, une épître, des fois c'est difficile parce que vous n'avez pas le contexte, vous ne savez pas ce qu'il y a avant, après. Les psaumes, vous pouvez en prendre un comme ça, puis il n'y a pas besoin de savoir ce que celui qu'il y avait avant, puis celui qu'il y avait après. Et même des fois c'est difficile de connaître ou de comprendre le contexte des psaumes. Donc il y a 150 psaumes, et puis ils sont tous différents, et puis il y a des auteurs différents, puis aussi des époques différentes, donc un petit peu comme l'entier de la Bible. Mais du coup, c'est pas simple de comprendre à qui, quand, comment. Mais c'est pas le but des psaumes. Le psaume, c'est pas des livres historiques. C'est justement des livres poétiques qui ont le but d'être intemporels. Donc l'idée, c'est que chacun puisse s'en saisir et puis proclamer et se réjouir avec ces psaumes. Donc on peut dire, en fait, dans les psaumes, il y a un recueil. C'est un recueil des recueils. Donc il y avait comme 5 autres recueils, puis il y a comme une compilation qui a été faite. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a des psaumes qui ont été mis à d'autres endroits que peut-être au départ, parce que par exemple, si on lit la fin du psaume 72-20, il est écrit « Fin des prières de David, fils d'Isaïe ». Puis après le psaume 72, vous avez peut-être remarqué, il y a encore des psaumes de David. Donc ça nous montre qu'il y a eu une compilation, et puis que ces choses ont bougé. Ça n'enlève bien sûr rien du tout à la véracité de la parole. Comme je viens de le mentionner, on trouve aussi dans nos Bibles des titres, donc des indications, qui sont généralement en italique, pour vous donner des indications. Puis là, on va juste regarder, parce que c'est intéressant. Elle nous donne des indications sur, par exemple, l'auteur, ou les auteurs. Donc là, j'ai juste fait la petite liste, parce que peut-être vous ne saviez pas. Il y a Asaph, qui a écrit, donc c'est des Lévites. Asaph, qui a écrit 12 psaumes. Il y a les fils de Corée, 11 psaumes. Il y a Salomon, qui a 2 psaumes. Il y a Yedutum, c'est lui qui est le prédécesseur de iTunes. C'est pour voir si vous suivez Yedutum. Bon, il y a 4 psaumes de Yedutum. Eman, une fois. Ethan, une fois. Moïse, même. Donc, vous voyez l'époque, une fois. Et puis, bien sûr, David, c'est le plus grand contributeur avec 73 psaumes. Donc on apprend qui est l'auteur de ces psaumes, et puis on apprend aussi quel est le type de psaume. Puis là, je vous ai vite mis, mais voilà, c'est juste un petit résumé. Donc il y a des, vous avez peut-être entendu, donc il y a des chants, psalmodies ou récitations rythmées, chants démontés, c'est des chants de pèlerinage. Donc quand ils allaient à quelque part, ils montaient à Jérusalem, il y avait des psaumes qui allaient avec. Il y a des poèmes, donc c'est des psaumes didactiques, donc il y a un but d'enseignement. Il y a des hymnes avec une adoration rituelle. Prière, bon, c'est un terme général parce qu'il y a beaucoup de prières, et puis il y a aussi un psaume de complainte. J'ai mis terme technique parce qu'ils ont traduit pour dire que c'était une complainte. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend encore d'autre ? Eh ben, il y a un mode d'exécution musicale, donc une annotation, des fois c'est un psaume joué avec le luth, ou la flûte, même la trompette, ou bien un chef de chœur, qui a la chorale. Et puis, il y a les circonstances de rédaction. Par exemple, le psaume 32, lorsque Nathan, le prophète, est venu trouver David qui avait commis l'adultère avec Bathsheba. Donc, on a une indication là, d'un coup, une note qui nous donne le contexte, ce qui est finalement rare. Et puis, on a l'utilisation liturgique. Donc, par exemple, c'était un psaume qui était lu, qui était chanté lors de la dédicace du temple. Voilà. Donc, il y avait des moments rituels clairs dans l'année où on lisait certains psaumes. Donc on en est bien loin, mais quoique, parce que généralement, à toi la gloire, on le chante quand ? À Pâques, ouais, voyez, on a aussi un peu nos rituels, encore. Bon, donc c'est juste pour dire qu'il y a ces annotations, elles sont en italique, parce qu'on ne peut pas les reconnaître comme canoniques, on ne peut pas penser qu'elles ont été là, inspirées de Dieu, qu'elles sont là depuis toujours, donc c'est quand même des ajouts, et parfois, ça pourrait vous mettre en erreur, mais globalement, c'est une source très fiable et ancienne, donc vous pouvez lire sans crainte ces petits italiques. Bon, alors pour aujourd'hui, j'avais forcément le choix entre 150 psaumes, puis il m'a semblé que le Saint-Esprit m'a conduit sur un psaume du cinquième recueil, le psaume 112. Puis c'est un psaume alphabétique, car en hébreu, chaque strophe du psaume commence par une des 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et puis, il n'y a pas tellement d'autres indications, donc je vous invite à le lire en même temps que moi, il s'affiche à l'écran. Donc, c'est un psaume de sagesse. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être est la richesse dans sa maison et sa justice subsiste toujours. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Pour celui qui fait preuve de grâce, de compassion et de justice. Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle ses affaires conformément au droit, car il ne sera jamais ébranlé. On se souviendra toujours du juste. Il ne redoute pas les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'éprouve aucune crainte, au point qu'il regarde ses adversaires en face. Il distribue ses bienfaits, il donne aux pauvres, sa justice subsiste à toujours, il relève la tête avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince des dents et perd courage. Les désirs des méchants sont réduits à néant. Amen. Amen. Il y a la lecture qui se fait toute seule. Voilà. Donc, j'ai choisi un psaume de sagesse. J'avais oublié d'avancer, je m'excuse, j'étais pris dans ma lecture. J'ai choisi un psaume de sagesse, vu que nous parlons justement de sagesse sous le soleil. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez de la deuxième clé pour vivre sous le soleil, selon l'Ecclésiaste. Exactement. Il y a des gens qui... Vraiment, merci, hein. Ça fait plaisir, ça nous encourage, nous, prédicateurs, à continuer. Effectivement, la crainte de Dieu. On avait vu deux clés qui sont aussi présentes, finalement, dans les psaumes. C'est la réjouissance et la crainte de Dieu. Et je trouvais intéressant, en fait, pour moi, c'est le dernier message, c'est Jean-Jacques qui donnera le dernier sur Cantique des Cantiques, mais de pouvoir comme un petit peu rassembler ça, on dit, oui, c'est la crainte de Dieu, encore une fois. Encore une fois, c'est la crainte de Dieu. Et c'est extraordinaire, parce que on dit, le début de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. dans les proverbes, on en parle dans les psaumes, on en parle dans l'Ecclésiaste, on en parle dans Job, parce que finalement, la réponse de Dieu, c'est aussi ça, c'est de regarder à ce grand Dieu, à ce Dieu qui était là, qui a fondé la terre quand nous, on n'y était pas. Donc, c'est vraiment fort de revenir à la crainte de Dieu. Hein, ici, le psaume commence « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Et puis, c'est bon, heureux. Hey, vous êtes là ? Heureux. Heureux l'homme, heureux la femme, évidemment, qui craint l'Éternel. Hein, je suis désolé, encore, il y a un peu de sexisme. Non, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Donc, encore une fois, la sagesse pour réussir ma vie sous le soleil passe par le fait de reconnaître l'autorité de Dieu et de lui obéir. Alors, je vous propose de découvrir, et c'est ce qu'on va voir dans donc, ce psaume, 5 bénédictions qui découlent de cette crainte de Dieu, finalement. Et donc, le texte débute par ce heureux, puis moi, ça me plaît, hein, parce que c'est quelque chose de bon. Des fois, la crainte de Dieu, on a peur, on dit, c'est quoi la crainte de Dieu, hein, puis on, voilà, non, mais heureux, donc il y a vraiment une, c'est comme le sermon sur la montagne, ce heureux, il nous invite à une progression, il nous invite à avancer, ce heureux qui nous propose une démarche finalement positive, qui nous laisse entendre qu'il y a quelque chose de bon, il y a un gain, il y a un bénéfice, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Donc il y a de la joie pour celui qui craint l'Éternel. Et dans ce psaume, donc il y a une liste de conséquences positives de notre engagement sur le chemin de la crainte de Dieu. Puis il y a une deuxième liste, on peut dire comme ça, qui sont les conséquences aussi positives, mais qui sont en lien aux actions que l'homme droit, autrement dit l'homme selon le cœur de Dieu, va poser. Alors avant de regarder ça, j'aimerais juste faire 30 secondes de pause. Est-ce que vous craignez Dieu ? Est-ce que vous vous considérez comme une personne qui craint Dieu ? C'est peut-être difficile comme question. Mais j'aimerais vous rassurer ce matin. À vous qui êtes là, vous qui regardez ce message en ligne ou qui le visionnerez par la suite, j'ai la conviction que vous êtes des femmes et des hommes qui craignez Dieu et qui désirez faire sa volonté. Sinon, vous ne seriez pas là. Vous pourriez être ailleurs ce matin. Mais vous êtes là. Donc il y a quelque chose. Mais j'aimerais vraiment que ce soit clair pour vous. Pas que vous commenciez à mettre des doutes. Ok, je ne suis pas parfait, évidemment. Je suis en chemin. Hein, on est tous en chemin, ou en chantier, on peut le dire comme on veut. Mais on a ce cœur-là. Si on est là, c'est qu'on reconnaît qu'il y a un Dieu. Si on est là, c'est qu'on sait qu'il est au-dessus et qu'on a besoin de lui. Donc c'est important. Pour que vous puissiez maintenant vous approprier ces bénédictions. Parce que j'ai parlé un petit peu à la tête, avec quelques points d'enseignement. Maintenant, ce psaume, il faut qu'il nous parle à notre cœur. Et c'est important que vous puissiez vous approprier ces bénédictions pour vous, pour vos familles. Même si parfois vous dites, oh, ben, on en est bien loin. Mais vous pouvez déjà vous réjouir. Ce ne doit pas être un fardeau, vous dire, oh, on n'est pas encore là. Non, ça vient. D'accord ? C'est en chemin. Alors, première bénédiction, c'est une descendance puissante. Donc votre sagesse, votre choix de suivre Jésus aujourd'hui, de reconnaître la grandeur de Dieu, ce désir que vous avez de lui obéir, fait une grosse différence dans toute votre lignée et dans les générations suivantes. Et ça, je le dis souvent aussi à ceux qui viennent de se convertir. Et puis, vous êtes des fois les premiers de toute une famille. Mais vous ne pouvez pas vous rendre compte de l'impact spirituel que ça a. Hein, parfois, on hérite quelque chose, puis on dit, la parole nous dit, on va de gloire en gloire, donc c'est super, on a déjà un héritage chrétien, puis on peut aller encore plus loin. Mais pour certains, vous ouvrez, vous amenez la lumière sur votre lignée, vous ouvrez à Dieu, et c'est extraordinaire. D'accord ? Donc il y a une bénédiction lorsqu'on craint Dieu, et cette bénédiction, elle se répand sur les générations suivantes. Donc votre descendance sera puissante. Et on pourrait traduire, ce seront des vaillants héros. Hein, le terme pourrait être traduit par vaillants héros. C'est extraordinaire. Donc vos descendants, la génération future sera des vaillants héros. Et souvent, on aime bien regarder en arrière puis parler des vaillants héros du passé. Vous êtes d'accord ? Hein, on connaît les héros du passé, les héros de la foi. Et puis, on aime bien lire quelques belles biographies des héros type George Muller et puis Gladys Award, ce sera la prochaine comédie musicale, ça va être magnifique. Hein, mais j'ai envie de vous dire, on a besoin d'hommes et de femmes d'impact de cette trempe-là aujourd'hui, dans cette génération. Et ça, ça doit nous encourager, nous, à dire, ok, moi, je veux craindre l'Éternel. Moi, je veux marcher avec l'Éternel. Parce que ma marche avec Dieu a une portée dans les générations suivantes. Et on a besoin de la grâce de Dieu, évidemment. Hein. Mais oui, il y a vraiment une différence. Donc ça devrait nous encourager. Une descendance puissante, et puis bien sûr, on pense enfants, petits-enfants, etc. Vous n'avez peut-être pas d'enfants, vous êtes peut-être célibataire, vous êtes peut-être monoparental aujourd'hui, mais c'est la famille, d'accord ? Pensez à la famille. Votre impact dans votre famille, là où vous êtes, est hyper important. Ok ? Deuxième bénédiction, une aisance matérielle. Il est présent, très clair dans le psaume, hein, la maison sera bénie. Il y aura une bénédiction matérielle, un bien-être. Il est question de bien-être. Puis c'est exactement tout ce qu'on retrouve dans le shalom de Dieu. Le shalom de Dieu, je le rappelle, ce n'est pas juste la paix, c'est une complétude, c'est vraiment un bien-être, c'est une aisance matérielle aussi, d'accord ? Et c'est vraiment ça. Donc Dieu touche autant à l'être intérieur que les besoins extérieurs. Et puis peut-être que des fois on est surpris quand on entend justement ça dans la Bible et dans les psaumes plusieurs fois. Il y a question de bien-être, de même de bonheur. Puis on se demande, mais vraiment, est-ce qu'on peut demander ça, la vie et le bonheur, etc. Mais Dieu ne méprise pas nos besoins matériels et terrestres. Hein, c'est une réalité, il désire notre bonheur. Mais à ce sujet, j'ai une petite réponse du théologien Dietrich Bonhoeffer qui a dit ceci, et je trouve très bien. Nous n'avons vraiment pas à nous reprocher de demander avec le psautier vie et santé, paix et bien terrestre, pourvu que nous le regardions, que nous les regardions comme des bienfaits de la communion bienveillante avec Dieu, et que nous ne perdions pas de vue que la bonté divine est plus précieuse que la vie. D'accord ? Donc il y a un très bel équilibre là dans ce qu'il dit là. Donc finalement, ça c'est en lien à la communion que nous avons avec Dieu. Et puis, on doit toujours se rappeler que sa bonté est plus précieuse que la vie. Finalement, cette relation que nous avons avec lui, cette communion, elle est plus chère que tout. Donc, s'il fallait tout perdre pour rester en communion avec lui, on perd tout. OK ? Donc, c'est une question de priorité et de cœur. Est-ce que je mets Dieu en premier pour obtenir quelque chose ou simplement par amour véritable, par obéissance ? Troisième bénédiction, il est question de la faveur de Dieu, l'approbation de Dieu. Quand il est dit, la justice, il te fera justice, j'ai plus le terme exact, excusez-moi. Sa justice subsiste toujours. Donc sa justice subsiste toujours, c'est vraiment l'idée de cette faveur de Dieu qui est toujours là, cette approbation de Dieu sur nos vies, ce sceau sur nos vies. Et ça, c'est vraiment tellement important de marcher avec cette faveur, cette bénédiction du Père. Et ça ouvre aussi les portes. Moi, c'est un peu comme marcher, pour ça que j'ai mis un peu ces images-là, c'est un peu comme marcher sous un spot. Hein, on a cette faveur de Dieu, avec cette alliance au doigt. Hein, jamais il nous enlève cette alliance. Au contraire, c'est des fois nous qu'on l'enlève, puis il nous la redonne, hein, comme le fils prodigue. C'est être sur ce socle de son amour, de cette protection. C'est un peu comme si on porte une armure invisible à l'œil nu, mais pourtant qui est bien présente. On marche avec sa justice, on marche avec sa faveur. Il est là. Moi, j'imagine même une armée qui nous escorte et qui ouvre le chemin pour nous. On ne la voit pas. Mais il est là, on a sa faveur et sa présence. Alors, est-ce que tu réalises que tu as tout ça lorsque tu marches dans sa volonté, parce que tu es précieux et précieuse ? Est-ce que tu réalises que lorsque tu marches avec droiture, il est là, il y a une protection ? Le verset 4, maintenant, il marque une transition, puis il met un peu un conditionnel. Donc, la lumière va poindre selon les actes de l'homme droit dans l'adversité, dans les ténèbres. Qui a un appel à refléter la justice de Dieu par la générosité, par la grâce et la gentillesse. J'ai mis 3G pour vous aider, hein, générosité, grâce, gentillesse. Et en faisant cela, la lumière va briller dans les ténèbres. Dans les ténèbres, d'accord ? Donc, l'homme qui craint l'Éternel, il y a une bénédiction à quelque part immédiate, une promesse de bénédiction qu'on vient de voir. Et puis, lorsque cet homme qui craint l'Éternel vit cela, est un homme généreux, fait grâce, il est gentil à quelque part, mais c'est gentil, gentil, ça ne veut pas dire bébête, d'accord ? Il est doux, il est bon. Hein ? Eh bien, il y a une bénédiction. La lumière enlève, enfin, vient dans les ténèbres. Donc c'est un peu comme si le Seigneur, finalement, nous dit ici, occupe-toi de mes affaires, rends la justice, sois généreux, manifeste la grâce, prends soin des pauvres, je m'occupe du reste. Un petit peu ça qu'on peut trouver dans ce psaume, comme ce verset bien connu de Matthieu 6, 33. Hein, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, c'est la version Semeur, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Hein, donc vraiment, c'est ça qu'il nous demande, c'est ça qu'il demande à celui qui craint Dieu. Lui dit, mais moi je m'occupe, mais toi fais cela. Alors le vivons-nous ? Est-ce que je me préoccupe de la justice de Dieu dans mes journées ? Est-ce que je manifeste la grâce, la générosité ? Et ce n'est pas juste une remise en question ou une accusation, pas du tout. C'est plutôt, bah, comment vous pourriez faire dans cette semaine pour amener cela, pour être généreux, pour manifester la grâce ? Pour manifester cette douceur, cette gentillesse, là où vous êtes dans votre lieu de travail. Je vous laisse la question. Et puis donc, il y a une deuxième liste de bénédictions. Lorsqu'on vit ces choses-là, quatrième bénédiction, eh ben, il est dit qu'on ne sera jamais ébranlé. Puis ça, je trouve vraiment fort. Jamais ébranlé. C'est tellement important dans les temps dans lesquels nous sommes. Ne nous laissons pas ébranler. Et c'est ce que j'ai aussi souhaité témoigner durant la crise Covid, avec vous ici à l'Escale. Quoi qu'il arrive, on ne se laisse pas ébranler. On ne se laisse pas distraire. Notre espoir est en Christ. Notre sécurité, elle est en Dieu. Gardons nos regards au bon endroit, continuons à faire ce que nous sommes appelés à faire fidèlement. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Et le plus important, il était prié ce matin, rien ne peut nous séparer de son amour. Des fois, quand je pense à ça, moi j'avais l'image d'un iceberg. Un iceberg, c'est relativement solide. Hein, mais je voyais des fois, je me disais, ben, des fois on est un peu comme ça, mais c'est aussi ça, d'être, de ne pas se laisser ébranler. On peut être sur un iceberg tout seul, et puis on est dans les eaux tumultueuses, puis il n'y a plus que nous. Hein. L'iceberg, c'est la banquise. Quoi. On est détaché de la banquise, on est juste sur notre petit truc comme ça. Et puis, on reste debout, on reste solide. On n'est pas ébranlé. Et même, on peut imaginer qu'il y a des gens qui vont venir, puis qui vont s'accrocher à notre iceberg, puis qui vont monter dessus. D'accord ? Mais si nous, peuple de Dieu, on est par terre, si nous, on s'est laissé ébranlé, si on est écroulé avec tout le reste, alors qui sera là ? Qui va pouvoir manifester cette grâce, cette générosité, ce secours de Dieu ? Qui ? Donc c'est pour ça que c'est hyper important, et encore plus dans les temps dans lesquels nous sommes, ces temps qui avancent, on a besoin de vraiment être, de ne pas se laisser ébranler. Et j'aimerais vraiment vous encourager là-dessus, à progresser, et à vous laisser toucher pour que nous ne soyons pas ébranlés. Et Paul le dit plusieurs fois, ainsi, dans différents contextes, il dit, en 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Hein, » Donc, soyez inébranlables. Et puis, Colossiens 1, 23, « Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur. » Donc c'est hyper fort. Donc il y avait quand même déjà une urgence pour Paul à ce moment-là, parce qu'il vivait la persécution, il y avait tellement un contexte difficile avec des faux enseignants, etc. Et puis c'était l'évangile qui était en train de progresser. Donc c'était tellement important que les chrétiens ne se laissent pas déstabiliser. Et ça n'a pas changé, les amis. Donc soyons inébranlables. Et ça, c'est en lien avec notre marche avec Dieu, notre crainte de Dieu. Et puis Pierre, il nous dit aussi, 5, verset 10, 1 Pierre 5, 10, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Donc là, il y a comme un processus de maturité qui passe par l'épreuve, mais où Dieu désire nous rendre inébranlables. Et je crois que c'est vraiment plus important que jamais. Cinquième bénédiction, elle va un peu dans le même sens. Elle dit, n'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur des mauvaises nouvelles. Hein, celui qui craint l'Éternel, il n'a pas peur, il ne craint pas la mauvaise nouvelle. Son cœur reste solide, nous dit la parole. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Que ce soit des mauvaises nouvelles ou face à l'ennemi, n'ayez pas peur. Il lui-même dit là qu'il regarde dans les yeux son ennemi. Il regarde dans les yeux son ennemi et son cœur reste ferme. Quelle mauvaise nouvelle est venue perturber ta vie ? Quelle mauvaise nouvelle est venue perturber ta vie ? Maladie, deuil, divorce. Qu'est-ce qui est venu perturber ta vie ? Combien de mauvaises nouvelles as-tu entendues juste la semaine passée ? Je suis sûr qu'on pourrait faire une grande liste. Troisième question, quelle emprise a la peur sur ta vie ? Quelle emprise a la peur ? On a déclaré tout à l'heure qu'il n'y a plus de crainte. Mais est-ce qu'il y a encore des peurs ? La peur de l'avenir, la peur de manquer, la peur de la maladie, la peur de la mort. On est vraiment maintenant dans ce moment où les gens ont peur. Et toi ? Vous connaissez peut-être l'histoire de deux explorateurs qui se retrouvent en pleine savane, d'où mon image de lion. Et puis effectivement, alors qu'ils explorent la jungle extraordinaire, voilà qu'un lion surgit devant eux, un lion menaçant, féroce. Il saute, il arrive comme ça. Puis là, bien sûr, ils sont complètement stressés. Hein. Puis il y en a un qui dit à l'autre, « Reste calme. Tu te souviens ce qu'on a lu dans le livre sur les animaux sauvages ?» Si tu restes parfaitement immobile et que tu regardes le lion dans les yeux, il va partir, il va s'enfuir. Puis l'autre, ouais, je sais, t'as lu le livre, moi aussi, mais est-ce que le lion l'a lu, lui ? Parfois, on sait qu'on ne devrait pas avoir peur. On sait qu'on ne devrait pas avoir peur. On a lu le livre, non ? Vous avez lu comme moi le livre. Mais on doute. J'aimerais te dire que le lion n'a pas besoin d'avoir lu le livre pour que notre Seigneur lui ferme la gueule. Plus tu tisses cette relation d'intimité avec le Père, plus cette confiance va grandir. Et il te délivrera toujours de tes épreuves. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume 34, 20. Donc on sait que la peur, elle n'est pas de Dieu. On le sait, on a lu le livre. L'antidote à la peur, c'est quoi ? C'est la confiance. C'est la confiance en Dieu. La crainte de Dieu, c'est donc aussi apprendre à lui faire confiance. Il est Dieu, il règne. Et ne te laisse pas envahir par la peur. C'est lui qui s'en occupe. Donc ce texte termine avec le méchant qui va reculer, hein, comme les deux explorateurs, ils auraient bien voulu que le lion recule. Et bien là, le méchant, il recule, il est irrité par ses bénédictions et il finit par perdre courage. Puis moi, quand j'ai lu ça, ça m'a un peu interloqué, qu'il perde courage. En fait, j'avais jamais réalisé que l'ennemi avait besoin de courage. Mais là, dans ma traduction, il perd courage. C'est marrant. Généralement, c'est nous qui avons tendance à perdre courage. Puis on n'a pas du tout cette pensée que l'ennemi pourrait lui aussi perdre courage. Mais c'est le cas. Il y a une inversion complète ici. Et l'ennemi qui cherche à nous ébranler, qui cherche à nous faire peur, ben, il ne trouve pas de faille. Il n'y arrive pas. Et puis ça, c'est une grâce, une bénédiction qui découle de notre marche avec Dieu, de notre crainte de Dieu. Donc on a une force qui vient évidemment pas de nous, mais qui le dérange, qui le fait plier, qui fait plier l'ennemi de nos âmes. D'accord ? Alors qu'on marche avec Dieu. Sagesse pour ma vie sous le soleil. Crainte de l'Éternel qui rend heureux. Qui signifie aussi poursuivre sa justice, être droit, généreux, plein de grâce, gentil. Et j'aimerais en conclusion de ce psaume le relire dans la version du Summer et vous inviter à le lire avec moi. En fait, comme un témoignage qui invite à la louange. Parce que ce que le psalmiste a écrit, c'est du vécu. Ça a été chanté par l'assemblée, mais l'idée, c'est pas des paroles vaines, c'est du vécu, c'est une réalité. Les bénédictions qui sont là, ils les vivent. Et j'ai vraiment envie qu'on puisse proclamer ce psaume ensemble pour terminer. Et pour cela, j'ai pris la version Summer. Alors, je vous invite à vous lever. Et puis, on va lire ce psaume ensemble. Donc, pas trop vite. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui révère l'Éternel et qui trouve un grand plaisir à mettre en pratique ses commandements. Sa postérité sera forte sur la terre. Et Dieu bénira les enfants du juste. L'abondance et la richesse régneront dans sa maison. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Au cœur des ténèbres, la lumière s'est levée pour les hommes droits et compatissants, pour ceux qui font grâce, qui sont bons et justes. Il est bon que l'homme prête généreusement et qu'il gère ses affaires avec équité. Car rien ne pourra jamais l'ébranler. On se souviendra pour toujours du juste. Il n'a pas à craindre les bruits malveillants. Son cœur est tranquille. Il s'appuie sur l'Éternel. Ferme sur ses positions. Il n'a point de crainte. À la fin, il peut regarder en face tous ses ennemis. On le voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé par Dieu. Honoré de tous, il peut relever la tête. Le méchant en est témoin, il s'enrage et il s'aigrit, il en grince de dépit et on est tout abattu. Oui, les désirs des méchants seront réduits à néant. Amen. Restez debout encore quelques instants, puis j'aimerais terminer avec une question. Aimeriez-vous faire de ce psaume votre témoignage ? Père, on te remercie pour ta parole tellement abondante, tellement riche. Et oui, Seigneur, on lit parfois ces textes avec ces touches poétiques, mais on se laisse des fois peu interpeller. Et ce matin, on est touché par ces bénédictions qui découlent de notre crainte de ton nom, de notre révérence. Seigneur, je prie que nous puissions être ton Église, ce peuple mis à part, oui, qui t'écoute, qui t'obéit, qui te reconnaît comme celui qui est vraiment Dieu, qui te laisse la place dans nos vies quotidiennes. Seigneur, je prie que la générosité, la grâce, la gentillesse fassent partie de qui nous sommes. Seigneur, que nous manifestions ta justice auprès des pauvres, des indigents. Seigneur, que ce soit vérité, que ce ne soit pas juste des concepts ou des bonnes idées, mais que nous puissions le vivre. Et Seigneur, par-dessus tout, je prie que nous puissions être ton Église inébranlable. Seigneur, que tu puisses prendre plaisir en ton Église. Que nous soyons vraiment l'Église qui reflète ta gloire. et que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent voir qui tu es, puissent même se raccrocher à toi au travers de nos vies bien simples, bien imparfaites malgré tout. Mais Seigneur, fais-nous grâce de rester debout, inébranlable. Et je vais prier encore ce matin pour toutes les personnes qui vivent des circonstances difficiles, où tout tremble autour d'eux, où tout est par terre autour d'eux, où tout, peut-être c'est même brûlant, ils ne savent plus où donner de la tête. Seigneur, je prie ce matin, alors qu'ils ont choisi d'être là, alors qu'ils ont choisi de se tenir debout devant toi, que tu viennes leur redonner des forces nouvelles pour qu'ils ne soient pas abattus, qu'ils soient inébranlables et qu'ils n'aient pas crainte. Seigneur, tu t'occupes de notre quotidien alors que nous nous occupons de tes affaires. En ton nom. Amen.